Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Maintenant, j'accueille Sarah Séné. Sarah Séné, qui est, mon Dieu, elle a tout un CV, hein, mais on pourrait dire réalisatrice, photographe, productrice, peut-être d'autres aussi, artiste multidisciplinaire, peut-être. Allô, Sarah?
Salut, Julie.
Donc, quel titre? Parce que je lisais, puis là, je ne savais plus.
Oui, ouais, je comprends. Moi, je me définis comme photographe et cinéaste.
Ah! D'accord, OK. Mais tu es aussi réalisatrice.
Oui, c'est ça, bah, cinéaste. En fait, ça moi, je réalise, je fais l'image aussi de mes films. Je fais beaucoup de choses dans mes films.
OK, c'est ça. Là, en fait, il y a plusieurs projets qu'on va pouvoir parler. Évidemment, le premier, c'est ton dernier bébé, là, le court-métrage Orbit, qui va être dans les festivals. Il commence, en fait, au mois de mars, là, donc fin mars.
Exactement.
On est là, là. On est dans le temps, là. C'est quel festival de...
Oui, c'est le Festival Regard qui fait sa première mondiale.
Au Saguenay.
Au Saguenay, fin mars, le 20 mars, exactement.
C'est ça. Ouais. Et là, à ce moment-là, parce qu'on le sait, le film, souvent, il commence par les festivals pour, après ça, éventuellement, être diffusé.
Bien, en fait, sa diffusion... C'est essentiellement les festivals de cinéma.
Ouais.
Ça se peut qu'à un moment donné, il y ait des diffusions autres dans des bibliothèques, par exemple, ou peut-être, je ne sais pas, dans des écoles, mais ça, c'est souvent secondaire.
Mm-hmm.
Mais pendant 2 ans, ça va être essentiellement les festivals de cinéma.
Et comme c'est un court-métrage, ben c'est pour ça aussi qu'on a moins de court-métrages au cinéma.
Hein? Exactement.
Mais par contre, des court-métrages, des fois, qu'ils vont se ramasser au Rendez-vous Québec Cinéma, et après ça, éventuellement, ils peuvent aller à un gala aussi, ils peuvent être sélectionnés. Cannes, bref, ça peut aller quand même très loin. Orbit. Puis c'est vraiment drôle parce que ben justement, avec mon invité juste avant qu'on parlait de l'amputation de l'œil, moi, j'arrêtais pas de dire ça, tu sais, que c'est un orbite, finalement, c'est un œil, là, donc je m'étais fait enlever mon orbite, là, tu sais, il y avait comme quelque chose que pour moi, c'était très significatif, mais Orbit. Mmh. Là, on parle d'un film court-métrage, pas la comédienne, mais...
La protagoniste.
La protagoniste principale, c'est Marie-Christine Ricciolo, qu'on connaît, on l'a vu là, à plein d'endroits différents, elle a raconté son histoire, tout ça. Mais moi, je voulais savoir là, d'où est venue l'idée de faire un court-métrage avec Marie-Christine et en fait, d'où est venue l'idée de parler d'handicap visuel alors que tu n'en as pas.
Oui, tout à fait. Déjà, c'est un court-métrage documentaire, donc c'est vraiment pas de la fiction, c'est vraiment, je filme le réel. Moi, je travaille toujours à partir du réel,
mm-hmm.
Je photographie aussi le réel, mais la différence avec une captation vidéo, c'est que moi, je mets en scène le réel, en fait. Donc, j'utilise beaucoup de costumes, de lumière, je m'amuse, en fait. Je m'amuse avec les personnes, en fait. C'est vraiment une collaboration.
Mm-hmm.
Donc, comment c'est venu cette idée de faire un projet avec Marie-Christine? C'est que moi, déjà, depuis bientôt 10 ans, je travaille beaucoup autour des handicaps. Donc, je collabore beaucoup avec des personnes en situation de handicap divers et variés.
Oui. Okay.
Moi, je suis quand même très au fait de beaucoup de choses concernant les handicaps, puisque j'ai vécu toute ma vie avec une maman déjà en situation de handicap. Et puis, moi, j'ai des handicaps invisibles.
Mmh.
Donc, je connais la question du regard social sur les personnes porteuses de handicap. Et puis, je pense que depuis très jeune, j'ai jamais vraiment... J'ai toujours eu un regard critique, justement, sur les représentations des personnes ayant des handicaps. En fait, ça m'a souvent posé problème.
Qu'est-ce que tu veux dire, un regard critique? Parce que moi-même, comme j'ai un handicap, des fois, je me rends compte que je juge ce que l'handicap a l'air.
Ben non, c'est que dans les en fait, ce que je veux dire, c'est que dans les représentations, donc que ce soit dans le cinéma, justement, dans les photographies, dans les articles de journaux, ça c'est, voilà, dans les informations, tout ça, le handicap des personnes, les personnes en tout cas, sont toujours représentées un peu de la même manière, c'est-à-dire toujours à travers des prismes qui sont soit misérabilistes,
Mais c'est ça, c'est ce côté-là, souvent un peu pas beau, fait pitié, mal habillé. Tu sais, on dirait, ils mettent tout le temps comme si... C'est justement, quand t'as un handicap, t'es une sous
oui, exactement.
Catégorie. Donc, pour ça, je dis que je me suis souvent retrouvée à juger parce que je fais « Arc, c'est oui. pas beau, ça! Oui. » Mais dans le fond, c'est parce que c'est pas la vraie représentation. Ben, ça peut être ça.
Ben, non, je pense que c'est qu'on on baigne, en fait, dans ces oui. représentations. Donc, malheureusement, le handicap, il est de toute façon... je dis le handicap au sens large, alors qu'il n'y a pas un seul type de handicap, mm-hmm. évidemment. Mais... il est de toute façon perçu comme négatif puisque ouais. les représentations sont quasiment toujours soit misérabilistes, ouais. soit, je ne sais pas, un truc d'inspiration un peu pour les personnes valides, ouais. Les leçons de vie, etc. Mm-hmm. C'est mm-hmm. vraiment gossant.
Oui, absolument.
tu en sais quelque
oui.
chose.
Oui, oui, oui.
Donc voilà, je pense que j'ai eu à cœur dans mon travail au bout de quelques années parce que maintenant, ça fait... ça fait quoi? Ça fait 15 ans que vraiment c'est mon métier, c'est devenu mm-hmm. mon métier d'être artiste. Depuis une dizaine d'années, ouais, ça fait 9 ans en fait. Ça fait 9 ans exactement, parce que ça fait 9 ans que je suis arrivée au Québec. Puis c'est au Québec que je me suis donné la liberté mm-hmm. d'aller, ça y est, d'aller poser un regard à moi et surtout collaborer avec des personnes qui allaient me faire confiance pour qu'on travaille sur une nouvelle représentation de leur personne. Alors, c'est des personnes en particulier, mais je pense que ça a un impact au sens large mm-hmm. aussi.
Mais dans le fond, c'est d'aller représenter finalement la réalité.
Oui, oui, je pense
Tu sais, oui. en fait, c'est un peu ça, c'est de dire, on ne va pas non plus magnifier
non.
l'handicap pour dire « Oh wow, hey, tout d'un coup, c'est rendu glamour, là, tu sais. »
Ah ouais, non, non.
Mais... C'est ça, c'est vraiment d'y aller avec la réalité.
Oui, mais en fait, j'ai envie d'aller chercher de la justesse.
Mm-hmm.
Et puis, je pense aussi que... C'est pour ça que j'aime bien parler de collaboration avec les personnes. Oui. J'essaye, en tout cas, quand je fais des projets, par exemple, le dernier en date, Orbite, avec Marie-Christine, oui. on est dans une relation horizontale. Même si c'est moi qui pose un regard sur elle avec ma caméra... Elle est au courant de tout, je discute de tout avec mm-hmm. elle, elle me propose des choses
oui.
Et puis son regard justement compte énormément mm. donc, et même il est primordial, hein. Il est même oui. peut-être primordial avant le mien donc c'est réfléchir ensemble, c'est remettre en question aussi mes propres pensées. Enfin, je pense qu'on n'a jamais terminé, en fait. Sinon, mm. sinon c'est pas bon, en fait, en tant qu'artiste, si on n'est pas dans la recherche.
Ouais.
Donc, ouais, depuis mon premier projet qui s'appelle Fovea, qui est une série de photos que j'ai commencé en 2017 et qui a terminé en 2019, c'est justement un projet à propos des adolescents et adolescentes malvoyants et aveugles mm-hmm. au Québec. Donc, j'ai rencontré quand même une vingtaine de personnes sur 2 ans, donc des wow. jeunes, essentiellement ados, jeunes adultes.
Ouais.
Et puis, de parcours très différents. Et puis, j'adore cette série. C'est des portraits en noir et blanc, en argentique, parce que c'est ça aussi la spécificité de mon travail. C'est que je travaille mm-hmm. juste en...
En noir et blanc?
Ben non, pas en noir et blanc, mais avec des médiums analogiques argentiques, des vieilles caméras,
ah,
en pellicule. Oui. Je travaille sur la pellicule.
Okay.
Et un rapport très physique. Et puis,
on n'est pas avec le gros HD qu'on a maintenant, là.
Non, moi, j'aime les imperfections, oui. le grain, les... Tu sais, dans une photo, en fait, dans une photo argentique, la photo, elle est composée de cellules,
oui.
alors que la photo numérique, elle est composée de pixels.
Oui,
et pour moi, les cellules, c'est vivant.
Mm.
Alors que les pixels, pour moi, dans mon rapport à l'image, en tout cas
oui.
personnelle,
oui.
y a une froideur qui me déplaît.
Oui.
Alors que justement, comme moi, je travaille beaucoup avec l'humain. C'est,
oui.
c'est l'humain que je veux révéler, C'est quelque chose qui est chaleureux, qui est dans le contact.
Mm-hmm.
Et puis la photo argentique, elle me permet ça. Puis en plus, quand je fais mes photos ou mes films aussi, je ne vois pas l'image. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran qui montre ce que j'ai filmé. Donc ça se peut que j'ai fait des photos ou que j'ai filmé, puis qu'il n'y ait rien au final, parce qu'il y a un bug quelconque sur la pellicule, sur la caméra que j'utilise.
Mais ça veut dire que dans le fond, tu plonges dans cet univers-là aussi, parce que si tout d'un coup tu photographies des jeunes qui ont un handicap visuel, qui ne voient pas, qui sont malvoyants, peu importe, mais là c'est comme si là, toi tout d'un coup tu dis « Ok, parfait, mais je vais aller aussi dans cet univers-là, ou est-ce que ben moi non plus je vais pas voir le tu sais, comme ce qu'on veut tout le temps, l'espèce de résultat de la perfection, le Photoshop. » Là, toi, tu vas complètement dans l'univers de la personne.
Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a quelque chose symboliquement intéressant aussi, c'est que qui va dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est que moi, avant de voir mes images, je les touche parce que je développe mes pellicules dans une chambre noire. Donc, je suis dans le noir total.
Comme à l'époque, là.
Ouais. Ah, là, moi, wow. À l'époque, du coup, ça a toujours été ça.
Non, mais c'est
oui,
ça.
Oui, j'aime ça quand tu dis ça.
Ben oui, que maintenant, il y a moins les chambres noires. Mais ouais. En plus, c'est ça, chambre noire, ça le dit, on est dans la noirceur ouais. Et on voit l'image.
Ben pour le développement de la pellicule en lui-même, moi, je travaille vraiment dans le noir total. Il n'y a pas de lumière rouge ou quoi que ce soit. Okay. C'est pour le tirage papier, ce que je ne fais plus maintenant. Je fais vraiment juste du développement. Puis après, je numérise ma pellicule avec un scanner spécialisé. Mais donc, je touche mes images que j'ai faites avant de les voir. Et ça, tu vois, c'est intéressant aussi parce que je crois que ça décrit bien mon rapport qui est très sensoriel à l'image.
Ah,
qui,
wow.
Qui est vraiment, qui est très, c'est ça, très tactile mm-hmm. et qui va dans le sens de mes projets, je crois.
Mais en fait, moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que, tu sais, là, tu te retrouves que tu prends des images, t'as pas vu de quoi ils ont l'air. Finalement, tu les touches, tu ressens quelque chose, mais t'as même pas encore vu si l'image... ça fonctionne ou pas. Tu sais, comme un peu pour le commun des mortels, tu sais, qui dirait « Ah oui, c'est beau » ou « C'est pas beau ». Toi, c'est comme si le fait que tu y touches, tu le ressens, à ce moment-là, c'est comme « C'est correct ».
Oui, faut le faire avec l'accident aussi, avec le hasard, des choses. Je pense que c'est une pratique... de l'image, une pratique artistique qui va contre l'efficacité,
absolument.
Contre la vitesse. Tu vois, moi, je m'inscris beaucoup dans la lenteur. Mm-hmm. Ça va aussi avec mon processus. Et puis, comme je te disais, moi, j'ai quelques handicaps invisibles. Et notamment, j'ai des douleurs chroniques. Mm-hmm. Je vis avec des douleurs chroniques depuis très longtemps. Et donc, je travaille dans la lenteur aussi de par ce fait-là.
OK.
Donc, ça s'imbrique tout ça, finalement. Oui. Ça fait sens. Ouais.
Ah, c'est ça. Mais à ce moment-là, c'est comme si... Toi-même, t'as des défis physiques, mais à quel moment, tout d'un coup, dans tous les handicaps que tu dis que t'as œuvré, là, que t'avais comme une sensibilisation, mais que spécifiquement l'handicap visuel, parce que là, dans le fond, t'as le projet Orbit qui est en lien avec l'handicap visuel spécifiquement. Ton projet photo, même chose, c'était avec des jeunes qui ont un handicap visuel. Il y a aussi une exposition que t'avais fait que tu voulais absolument qu'elle soit accessible pour le public qui a un handicap visuel. De où, tout d'un coup, c'est arrivé dans ta vie là, de dire « Ah oui, moi spécifiquement, l'handicap visuel, il y a quelque chose que je veux aller explorer. »
Ouais. Eh bien, je pense que c'est vraiment grâce à une expérience professionnelle que j'ai eue au tout début de mon arrivée à Montréal. J'ai travaillé pour une OBNL qui s'appelle Montréal Relève et qui offrait des stages à des adolescents, à des jeunes du secondaire, des stages professionnels pour voir un peu dans quoi ils avaient envie de travailler plus tard. Ouais. Il y avait une section spéciale pour les jeunes avec des handicaps visuels. Et en fait, ça s'appelle Mission... Ah, j'ai oublié le terme, ça fait quelques années. Okay. Mais en tout cas, c'est un programme spécial de Montréal Relève. Et puis moi, j'avais un contrat photo au début, tu sais, j'avais des petits jobs de photo comme ça, quand je suis arrivée. Puis j'ai dû assister à une réunion avec ces jeunes, puis faire quelques photos de la réunion. Puis tous ces jeunes qui avaient, je sais pas, 15, 17 ans, ils parlaient de leurs envies professionnelles. Et puis, en fait, j'ai pris une grosse claque, comme je dis souvent, parce que... symbolique, hein?
Oui, oui, non, mais je comprends parce que tu t'en vas, là,
parce que j'aurais eu une idée très limitée de ce que pouvait faire un jeune avec un handicap visuel, en fait. Alors que là, il n'y avait aucune limite. Il y avait des jeunes qui avaient envie de devenir sportif, professionnel. Ouais. Une jeune fille qui voulait travailler dans l'équitation. Enfin, il y avait beaucoup de choses, journaliste.
Ouais.
Et il y avait un infini des possibles qui m'a énormément touchée. Puis je pense que j'ai eu une espèce d'épiphanie à ce moment-là où je me suis dit, j'ai envie de faire un projet artistique autour de jeunes avec un handicap visuel pour justement qu'on arrête nos conneries de penser que, mon Dieu, les pauvres jeunes qui n'ont pas d'avenir. Non, non, ils ont un avenir grandiose aussi, avec autant de portes qu'un autre. Alors, ils vont avoir des défis.
Ben, en
comme
fait,
on en a tous et toutes, en non, fait, mais différents.
Oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est de dire que quand sont jeunes... ils ont les envies, ils ont les rêves. T'sais, tout est là. C'est comme si tout est possible. Mais c'est vrai, par contre, qu'après ça, ils se ramassent qui ont des portes dans le front. Là. T'sais, c'est la société qui fait ça.
Exactement.
Mais l'intention du début, là, l'espèce d'énergie de vie, là, de force de vie, de dire, hey, oui, moi, je vais faire de l'équitation, Puis c'est pas grave, je vais trouver une façon d'en faire. Mais ça se peut qu'après ça, de l'autre bord, on dise, ben non, tu peux pas faire de l'éducation, tu peux pas faire de l'équitation. Et là, c'est les adultes qui vont refléter ça. Là, après ça, ça prend beaucoup de courage puis de force pour la personne elle-même, parce que malheureusement, soit que ça détruit son rêve, ou bien elle dit, ben moi, je vais la défoncer, la porte.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, je pense que c'est ça qui est beau, c'est de dire qu'à la base, ces enfants-là ne manquent pas de rêve.
Oui,
tout
à fait.
Tout est possible.
Oui, oui, je crois que c'est cette fraîcheur-là, effectivement, qui... et puis le rêve, en fait, les rêves qu'ils peuvent avoir qui m'ont vraiment portée. Et puis d'aller à leur rencontre, parce que j'ai aussi beaucoup réalisé que tu dois le savoir bien mieux que moi, mais je pense que les gens ferment les yeux, la société ferme les yeux, et notamment par rapport aux personnes qui ont un handicap visuel. Mm-hmm. Je t'entendais parler tout à l'heure du visage quand j'attendais pendant ta précédente entrevue, et j'ai l'impression quand même que les personnes qui sont peu en contact avec des personnes ayant un handicap en général, mais surtout un handicap visuel. Il y a une frilosité, on ne veut pas voir, on ne veut pas être en contact, on ne sait pas quoi faire, tu vois. Et en fait, moi, mon envie, c'était de montrer les visages d'une jeunesse, justement, qu'on ne veut pas voir, donc sans lunettes fumées, sans canne blanche, tu vois, de pas être dans des stéréotypes, et puis de décider avec eux où ils allaient être photographiés. Puis je pense qu'il y a beaucoup de douceur dans les portraits, on est dans les visages, dans des lumières. Voilà, et puis... L'exposition, déjà à ce moment-là, elle a été accompagnée de descriptions d'images sous forme de poèmes que j'ai écrits, qui étaient pour l'exposition disponibles en braille uniquement.
Waouh!
Et alors, c'est pour ça que je te dis que ma recherche la pousse toujours et je vise à mieux faire, puisque je sais bien que le braille n'est pas accessible à toutes les personnes ayant un handicap visuel.
Ce serait
trop beau. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que, évidemment, il y a 98% de personnes qui sont venues à cette exposition
qui voient,
savent pas lire le braille. Mais c'était intéressant qu'on me dise au vernissage, mais Sarah, moi j'aimerais savoir ce qu'il y a écrit dans ces descriptions sous forme de poème. Je veux lire.
Oui.
J'ai dit, ben non, j'ai volontairement pas retranscrit ce qu'il y a écrit, parce que vous êtes là dans la posture pendant une minute ou deux, c'est tout dans
c'est
votre
tout.
Vie.
C'est ça.
Mais de ne pas avoir accès à quelque chose, et notamment dans le milieu de l'art. Voilà.
Oui.
Parce que le milieu de l'art, il est très, 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 très rarement accessible aux personnes ayant un handicap visuel ou même d'autres types de handicap.
Ah oui. Et en fait, c'est ça que je trouve qui est intéressant au niveau du... Vraiment, je trouve typiquement l'handicap visuel, il y a vraiment quelque chose qui est associé aux yeux.
Oui.
Parce que l'handicap visuel, quand tu ne vois plus tes yeux, là... Tu sais, dans le sens que t'as plus le focus, t'as plus... Fait que des fois, ben c'est ça, t'as la personne que tu vois qu'elle a les yeux, on dirait, révulsés par en haut. Là, tout d'un coup, elle a un œil qui est dans le coin, là, qui est complètement... qui louche, qui... Puis souvent, ça, c'est associé à... Wesh, c'est pas beau. Parce qu'on est habitué, des yeux, on se regarde dans les yeux, et là, ah, il se passe quelque chose. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, si t'as plus tes yeux... t'as comme plus accès à l'autre personne. Fait que je trouve qu'au niveau de la société, il y a vraiment un préjugé supplémentaire par rapport à l'handicap visuel, de par ce regard-là dans les yeux qui est plus présent, pas de la même façon.
Tout à fait.
Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont porter des lunettes de soleil. Marie-Christine en est une qui porte, je pense, moi, 99 % du temps que je la vois, elle a des lunettes de soleil. Quand elle prend des photos, elle a ses lunettes de soleil. Parce qu'il y a ça, elle aussi, tu sais, elle sait que ses yeux, ils vont plus aux mêmes places.
Oui, oui. Puis il y a cette peur du jugement, parce qu'on l'associe à un imaginaire, par exemple, de la sorcière. Enfin, combien de fois j'ai entendu ça? Comme Marie-Christine a les yeux très pâles, par exemple, qui n'a plus de pupilles, des choses comme ça.
Oui.
Et puis, tu vois, justement, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que... Déjà, pour l'anecdote, Marie-Christine, elle a enlevé ses lunettes la plupart du temps pour le tournage de mon film Orbite. Et ça, c'est un cadeau qu'elle m'a fait.
Mon Dieu, tellement.
Et je pense que ça témoigne de la confiance qu'on a eue l'une envers l'autre, justement.
Oui, parce que ses yeux sont magnifiques.
Tout à fait. Elle est magnifique.
Elle est magnifique.
Elle est magnifique aussi.
Mais ses yeux
font partie de son visage, de sa personne.
Ben oui.
Et c'est un vrai cadeau qu'elle m'a fait, parce que je sais qu'elle le fait rarement.
Très.
Mais tu vois, pour raconter aussi une anecdote de mon expo Fovea, justement, mon projet sur les jeunes aveugles et malvoyants. J'avais une expo à Victoriaville il y a quelques années, puis le soir du vernissage, il y a une dame qui est venue avec sa petite fille de peut-être 7 ans. Et donc, moi, c'était des très, très grandes photos, des très grandes impressions immenses, tu vois, qui faisaient presque la taille d'un mur, des portraits très forts en noir et blanc avec beaucoup de grains, beaucoup de prestance comme ça, puis ces visages qui sont si beaux. Ouais. Et puis, il y a le portrait d'une jeune femme, Camille, que j'aime beaucoup et qui donc était en pleine lumière, donc les yeux blancs, magnifiques. Et puis, cette femme, elle est venue me dire, je voulais venir à l'expo avec ma fille, mais je me dis que c'est peut-être une mauvaise idée parce que là, en fait, ma fille, elle a eu peur des yeux blancs. Elle dit que ça fait des yeux de sorcière ou des yeux de dragon.
Ben oui.
Et en fait, bon, ça m'a vraiment énervée. J'ai ressenti un petit truc dans le ventre.
Oui.
Mais je lui ai dit, voyez, justement, c'est pour ça qu'il faut faire des expos comme ça. Puis c'est pour ça que vous faites bien d'emmener votre fille, parce que c'est le manque de représentation autre que dans l'imaginaire. Je ne sais pas quoi, de sorcière fantastique ou qui associe à quelque chose de négatif, en fait.
Mais oui.
C'est pas ça. C'est pas ça, la réalité. C'est pas ça, la vraie vie d'une personne avec un handicap visuel. C'est pas de vivre H24 avec des lunettes fumées. Non. En fait, les lunettes fumées sont là pour ne pas avoir ce genre
de
jugement.
C'est ça. Parce que dans le quotidien... Marie-Christine ne les porte pas, ses lunettes, là, toute seule là, chez elle. Mais moi, ma carte d'assurance maladie, quand j'ai dû la prendre, on m'avait enlevé mon œil et je n'avais pas encore de prothèse oculaire. Donc, c'était un œil rose. Et sur ma photo, que je dois garder jusqu'en 2030, c'est moi avec un œil normal, mon œil brun et un œil blanc.
Oui.
Et chaque fois que je sors ma carte... Chaque fois, moi-même, là, je le fais. Là. Chaque fois que je sors ma carte, j'ai tout le temps comme un petit... Ah, mon Dieu, c'est vrai.
Même toi vis-à-vis de toi-même, ça te surprend.
Parce que c'est comme... Ah oui, c'est vrai, j'avais pas d'œil, hein, c'est spécial, mais c'est qu'on le voit pas. C'est comme si c'est vraiment c'est blanc.
Ouais.
Et chaque fois que je la donne à quelqu'un, je me justifie, je m'excuse. Oui, je sais, j'avais pas de prothèse à ce moment-là, mais là, j'en ai une maintenant, mais je suis pris avec ma carte jusqu'en 2030. Tout le temps. J'ai tout le temps ce réflexe-là. Mais je le fais pas pour moi. Tu sais, dans le sens... Je veux dire, oui, pour moi, dans le sens que j'ai un choc moi-même à chaque fois un peu. Mais après ça, je pourrais le vivre tout seul. Là, ça gère bien. Parce que je sais que c'est plus moi. C'était moi. Bon. Mais là, c'est parce que là, je la donne à quelqu'un. Fait que là, je veux pas traumatiser la petite madame à Post-Canada. J'ai récupéré un paquet.
Ouais.
Tu comprends?
Oui, je comprends tout à fait.
Alors, je comprends la réflexion de la maman de dire, oh mon Dieu, ma fille. Mais de l'autre bord, moi, ce serait le contraire. Ce serait, ben non, on va aller voir ça. Ça va amener une sensibilisation. Mais en même temps, de faire, ah ouais, hein, des yeux blancs, on ne voit pas ça souvent. Hein?
Mmh. Ben justement, on a à cœur qu'on voit ça plus souvent. Ben, c'est ce que j'essaie de faire.
Mais c'est ça. Mais c'est ça que je t'ai dit. C'est vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose d'associé vraiment au niveau de tu sais, physiquement, vu que c'est au niveau de la, tu sais, du visage, et que tu ne peux pas faire abstraction. Tu sais, tu es en train de parler à quelqu'un et la personne, tout d'un coup, elle regarde à droite, à gauche, en bas, en haut. C'est comme ça brise la relation. Tu sais, d'emblée, c'est comme si... Ben, je peux pas avoir une relation si la personne ne me regarde pas.
Oui. Dans la communication.
Dans la
communication. Parce que le eye contact est si présent habituellement.
Ben oui, parce qu'on a associé ça vraiment au niveau des yeux. Fait que je trouve ça vraiment magnifique ce que tu fais parce que quand tu fais l'exposition, ben, t'amènes ça complètement à un autre niveau. Et quand tu fais le documentaire, le court-métrage avec Marie-Christine, ben, la même chose. C'est que là, ben, c'est Marie-Christine à travers, finalement... On plonge dans son univers où est-ce qu'elle a... Et c'est très poétique, hein? Donc, c'est vraiment pas comme « Bonjour, je m'appelle Marie-Christine », parce qu'un documentaire, des fois, c'est ça, hein?
Oui.
Et là, elle raconte, là, tu sais, j'ai perdu la vue, j'avais 30 ans, et là. Non, c'est pas ça. C'est, on plonge vraiment dans son univers...
Oui, puis je crois que j'ai voulu créer une bulle. En fait, c'est ça que j'ai toujours dit à Marie-Christine. Et puis, j'ai réalisé le film aussi en collaboration avec une musicienne qui s'appelle Sarah Pagé, qui est une grande collaboratrice de Lassa, d'Essela, par exemple, qui a fait un travail magnifique à la harpe pour notre film, donc à la harpe électronique. Donc, c'est tout un environnement sonore qui fait qu'on est dans la bulle de Marie-Christine. Puis, il y avait aussi un concepteur sonore avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Andrés Solís Barrios, à qui j'ai demandé de créer des sons caressants. Et notamment, il a beaucoup travaillé avec des sons de l'espace. Alors, il n'est pas allé les capter, hein, il a travaillé avec plein de choses dont il dispose numériquement, justement.
Ouais, ouais.
Mais parce que je voulais qu'on soit dans quelque chose d'ambiant. Donc, ma pratique, elle s'inscrit dans le documentaire expérimental. Donc, c'est vraiment pas du documentaire classique télé. Mmh, mmh. Je compose un peu des tableaux avec Marie-Christine qui porte justement des costumes, on utilise des lumières, on s'amuse. En fait, moi, je pense qu'avec les personnes avec qui je collabore pour mes projets, je m'amuse comme quand j'étais petite et que je faisais des choses avec mes poupées, mes Playmobil, mes Polly Pocket, tu vois, où j'adorais mettre en scène. Puis on s'amuse beaucoup. Il y a cette légèreté, il y a cette complicité aussi, je pense. Puis, c'est ça que j'ai voulu faire, qu'on ressente en fait aussi sa mémoire sensorielle. Ça, c'est vraiment le fil conducteur que j'ai voulu avoir dans le film. Donc, ce n'est pas un film à propos du handicap qui parle de la cécité. C'est vraiment, je fais appel à des... Tu sais, on parle de la lune, justement, on parle du soleil. Enfin, je dis « on », mais c'est surtout elle. Moi, j'apparais vocalement quelquefois. Il y a son fils qui apparaît aussi dans le film, son amoureux. Mmh. Et puis, il y a toujours l'univers du cosmos qui revient, en fait. D'où le titre du film « Orbite » au pluriel. Mmh. Puis son amoureux, puis son fils qui tournent en orbite autour d'elle. Mmh. Puis en même temps, tu as cette idée, comme tu le disais au début, de l'orbite de l'œil.
Voilà. C'est ça, exactement. Et en fait, là, ton film, comme tu dis, il va être à partir du 20 mars au festival Regard à Saguenay. Comment on... c'est peut-être pas tout le monde qui va aller à Saguenay en ce moment, mais exemple, là, est-ce que là, tu as déjà une suite ou c'est rendu au film, au festival, tu vas pouvoir savoir s'il y a une suite ou comment
non,
ça va marcher?
Le festival, il est en ce qu'on appelle en distribution, en phase de distribution. Donc là, ça veut dire que ça fait seulement quelques semaines qu'il est rentré en distribution chez Vidéographe, qui est mon distributeur attitré pour mes films. Puis là, il va tourner le festival... internationaux, tu sais, on l'espère, comme mes autres films ont fait. Puis au Québec, alors c'est ça la difficulté, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent pour le voir à Montréal, mais il faut savoir, ça n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, mais que quand il y a une première dans un festival, au Festival Regard par exemple, eh bien, à Montréal, ce n'est pas possible qu'ils passent, par exemple, au festival des RIDM, festival de documentaires, parce que les RIDM exigent une première montréalaise.
Ah,
une
d'accord.
Première québécoise, je veux dire.
Oui, oui,
donc,
oui.
Elle est, voilà.
Sarah, c'est sur ton site Internet, Sarah Séné ou Orbit, qu'on trouve les informations?
Les infos, oui. Oui.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Sarah. Ça a été un grand plaisir.
Ça a été vite, hein?
C'est ça. Je remercie mes invités, Stéphanie Morin-Robert et Sarah Séné. Merci, Mathieu Tessier, à la mise en onde. Et nous, on se retrouve pour une autre prochaine émission. Bye bye tout le monde!